Moi, les seules choses sur lesquelles j'ai la main, bah, c'est mon délire créatif. C'est comme ça que j'attire les gens à moi, l'air de rien. Et c'est bah, l'empathie, parce que quand on est très malade, on a aussi beaucoup d'empathie et j'ai du mal à supporter la misère sur Terre. Si je peux en enlever un petit peu à mon petit niveau en redistribuant les objets qu'on me donne à des gens qui en ont besoin. Par exemple, un SDF reçoit les clés de son appartement, c'est bien, mais l'appartement il est vide. Donc bah, nous, on lui remplit.
Podcast by Tendance Ouest. Fait de vie, Philippe Bertin.
Bonjour Caroline, je suis avec vous chez vous dans votre maison ici à Pont-Farcy et nous nous sommes rencontrés parce que votre maison est singulière, elle a une décoration toute particulière dont vous allez nous parler, mais si nous nous sommes rencontrés, c'est aussi pour parler de ce que vous vivez au jour le jour. Vous êtes atteinte du syndrome d'Ehlers dans l'eau, c'est une maladie génétique orpheline particulièrement rare et pour laquelle d'ailleurs vous avez créé une association pour faire connaître cette maladie qui est méconnue et qui a toutes sortes de répercussions à la fois sur le plan musculaire, sur le plan neurologique. Sans entrer dans les détails, c'est une vie très difficile que vous avez, vous, ici, puisque vous ne pouvez quasiment pas sortir de chez vous. Vous avez beaucoup de difficultés à vous déplacer et votre vie est devenue, depuis l'âge de 15 ans, un enfer. Et voilà maintenant, vous êtes âgé de 50 ans, et voilà 6 ans que votre maladie, celle dont vous souffrez au jour le jour, a été diagnostiquée. Je voudrais que on revienne sur votre parcours, mais que vous me disiez un peu ce qui fait le cadre de votre vie, parce que c'est pour cela que nous nous sommes rencontrés au tout début, c'est parce que cette maison que vous habitez à Pont-Farcy est particulièrement attractive et amusante.
Merci, c'est gentil, Philippe. Oui, parce que quand on est atteint d'un syndrome d'Ehlers dans l'os, on est assez empathique et on est assez aussi créatif. Et j'avais besoin d'exprimer ma créativité et elle place par le recyclage d'objets désuets.
Alors, des objets désuets, il y a des casseroles, il y a des cuvettes, il y a des petites statues, j'ai vu qu'il y avait des valises. Alors, vous les utilisez, vous les récupérez, vous les transformez, et puis certains, vous les redonnez, parce qu'il y a aussi un objet dans tout ça, c'est celui de la redistribution.
Tout à fait. Alors, les objets anciens, par exemple, la cuvette de grand-mère avec le pot à eau de grand-mère, personne n'en veut, personne n'en a l'utilité. Et moi, je trouve ça magnifique. Donc, l'idée, c'est de le détourner pour qu'il serve à quelque chose. En l'occurrence, à mettre des plantes dedans. C'est magnifique. C'est original. Et les soupières se transforment, par exemple, en choupières. Voilà. Je décore toute ma maison, intérieure et extérieure, comme ça, en détournant des objets. Un vieux sac à main de grand-mère fait une parfaite jardinière. Il y a moyen, une tourbotière, c'est parfait, c'est l'idéal pour les rebords de fenêtres. On peut faire des choses vraiment géniales avec de la vaisselle qui sert à rien. Alors, ce que j'aime particulièrement, c'est avant les années 50. Donc les tasses à café par exemple dont personne ne se sert parce qu'elles sont beaucoup trop petites dans les arbres, c'est très joli, ça attire aussi les oiseaux, on peut très bien mettre une petite plante dedans et se taper des délires. Et c'est pour ça que vous vous êtes arrêté effectivement devant chez moi. Ça arrive parfois, les gens s'arrêtent, me demandent c'est quoi, d'expliquer le délire en question. Parfois m'achètent carrément des objets pour l'association, puisque les sous que je gagne vont pour mes malades, mes compagnes et mes compagnons d'infortune. Et ça permet d'apporter des sommes sonnantes et trébuchantes à l'association. Parallèlement, on m'offre de tout. Ça peut être une petite cuillère, un oreiller, de la vaisselle, des serviettes de toilette, un porte-savon, n'importe quoi. Et je me charge de redistribuer à des gens qui en ont besoin tous ces objets. Alors, soit directement, Par exemple, je savais que Tom avait besoin d'une paire de chaussures en taille 42, type tennis. J'en avais pas. La semaine d'après, c'est arrivé, Tom a eu des chaussures. Et il avait pas de sous pour s'en acheter. Donc, il était bien content d'en recevoir. Comme ça peut être redonné à d'autres associations qui redispatchent, comme par exemple la Banque Alimentaire de Tessie, pour laquelle on ouvre un rayon vêtements, donc ça permettra d'habiller 122 personnes en difficulté financière, et nous on reçoit suffisamment de vêtements pour pouvoir habiller tout le monde. Donc régulièrement ils vont avoir accès à des vêtements comme ça.
C'est, si je vous dis, c'est une maison bric-à-brac ou c'est la maison du bon Dieu? Quelle est la formule que vous choisissez?
Celle de ma grand-mère, elle dit la maison de l'abbé Pierre.
Alors, la maison de l'abbé Pierre, cette décoration, ça vous aide à supporter le quotidien qui n'est pas facile pour vous?
En fait, j'ai besoin d'avoir les mains dans la terre pour me recentrer. C'est comme ça que je me rééquilibre. Je ne peux plus du tout jardiner, c'était ma grande passion avant, donc je peux même pas désherber. Je peux à peine donner deux coups de sécateur, parce que dans le syndrome de l'herse dans l'os, une des principales douleurs, c'est la douleur de répétition. Donc entendons-nous bien, parler c'est une répétition, donc au bout d'un moment... j'ai la voix qui part en sucette parce que ça fonctionne plus bien. Couper une courgette, c'est une répétition. Tailler un rosier, c'est une répétition de gestes. Et la répétition fait extrêmement mal. Donc, je détourne une partie de ma douleur comme ça. Je l'exprime comme ça, dans la joie, en fait. Si quelqu'un qui passe devant ma maison sourit en voyant mes délires décoratifs, et ben, pour moi, j'ai gagné. J'ai fait sourire quelqu'un dans ma journée.
Alors, à ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vous souffrez depuis l'âge de 15 ans?
Alors, donc, la maladie d'Ehlers dans l'os, nous naissons avec. C'est une maladie génétique qui a la particularité d'être vraiment méconnue, voire inconnue du monde médical, ce qui fait que on traverse de grandes périodes d'errance médicale avant d'arriver à un diagnostic.
Donc j'ai été diagnostiquée. L'errance médicale, ça veut dire on cherche de quoi vous pouvez souffrir avant de poser un diagnostic, hein,
c'est ça? Tout à fait. Et souvent, malheureusement, ça se résume pour mes compagnons d'infortune et moi-même à des problèmes psychiatriques ou des problèmes de fibromyalgie. Or, c'est une maladie à part entière qui nous fait énormément souffrir au quotidien, qui réduit notre périmètre de marche, qui réduit nos actions, qui fait qu'on a beaucoup d'incompréhension sociale, parce qu'un jour, vous pouvez nous voir marcher normalement dans la rue et le lendemain, vous ne nous voyez pas parce qu'on est couché avec 15 oreillers, parce que la marche qu'on a fait la veille, physiquement, notre corps l'a pas supporté.
Fait de vie. Philippe Berta.
Concrètement, vous m'avez dit, par exemple, vous avez eu de multiples luxations, vos chevilles ne vous portaient plus, vous avez les épaules en vrac, les hanches, vous avez été opéré plusieurs fois. Concrètement, aujourd'hui, de quel mal vous souffrez?
C'est une maladie qui prend absolument l'intégralité du corps. Donc, j'ai décidé, moi, je peux rien faire pour lutter contre elle. Donc, elle a pris possession de mon corps, mais elle aura jamais mon esprit. Et donc, en fait,
Il faut y préciser, pardon, Caroline, il faut préciser que ce n'est pas une maladie dégénérative,
hein. Alors, non, on n'en meurt pas. Néanmoins, il y a quand même des conséquences lourdes. Et j'ai déjà quand même failli mourir plusieurs fois. Notamment à cause du syndrome d'activation mastocytaire qui est souvent associé et qui fait qu'on est plus ou moins allergique à tout, ce qui vaut des œdèmes de coin, ce qui vaut des chocs anaphylactiques. J'en ai plusieurs au compteur. C'est une maladie aussi qui dérègle tout, y compris la fréquence cardiaque, y compris la tension. Donc au moment du diagnostic, par exemple, j'étais quasi mourante, j'avais plus que 5 de tension, je faisais 35 syncopes ou 50 syncopes par jour, on n'expliquait pas les choses, et heureusement, on arrive au diagnostic avec des médicaments qui m'ont remonté, etc., un petit peu, qui m'ont stabilisé. Néanmoins, c'est toujours le système du millefeuille. Vous réglez un problème médical, il y en a déjà 15 autres qui attendent derrière, ça se superpose, et au bout d'un moment, il y a trop de couches, et on reste collé dans notre maladie, on peut plus en sortir correctement, ça c'est insidieux, c'est très pernicieux, ça prend enfin, petit à petit, il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire. J'étais obligée d'arrêter de travailler. J'étais obligée d'arrêter de conduire. J'ai pris la décision de pas faire d'enfant 10 ans, même 12 ans avant le diagnostic, parce que j'avais bien compris que j'avais une maladie orpheline. Il n'était pas question que je la transmette. Ça nuit aussi au quotidien. Je peux plus manger qu'une fois par jour, par exemple, parce que j'ai une atteinte, une gastroparésie. C'est une atteinte du système digestif qui fait qu'il peut aller jusqu'à la paralysie complète. Donc, on peut plus rien manger. Donc, moi, je mange une seule fois par jour. J'ai plein d'intolérances alimentaires, donc je mange pas ce que je veux. Donc, ce n'est pas moi qui décide de quand je mange et de ce que je mange. C'est mon corps qui décide. Donc, moi, les seules choses sur lesquelles j'ai la main, ben, c'est mon délire créatif. C'est comme ça que j'attire les gens à moi, l'air de rien. Et c'est l'empathie, parce que quand on est très malade, on a aussi beaucoup d'empathie et j'ai du mal à supporter la misère sur terre. Si je peux en enlever un petit peu à mon petit niveau en redistribuant les objets qu'on me donne à des gens qui en ont besoin, par exemple un SDF reçoit les clés de son appartement, c'est bien, mais l'appartement il est vide, donc nous on lui remplit.
Alors, vous dites « nous » et ça me tend une perche parce que « nous », c'est aussi avec Laurent, votre mari, qui est votre aidant, qui est votre tiers aidant, qui passe ses journées entières près de vous. Laurent dit que vous êtes quelqu'un de bouillonnant et il dit aussi que vous êtes tous les deux en fusion. Comment vous abordez justement ce quotidien tous les deux ensemble ?
Alors déjà, Laurent a pris le kit complet. Hein. On s'est retrouvés il y a 10 ans.
Oui, vous étiez connus au collège, hein, c'est ça ?
C'est ça, au collège de Ouistreham. Et il y avait eu déjà quelques émois, mais ça en était resté là. Et 25 ans après, il a reconnu mon nom tout simplement sur Facebook. Et on s'est revus et on ne s'est plus quittés dès l'instant où on s'est revus. Et il a pris le kit complet. Donc à l'époque, j'étais pas diagnostiquée, mais j'avais déjà un fauteuil roulant, beaucoup de restrictions personnelles et lui, ça lui a posé aucun problème.
Vous dites, voulez-vous nous dire par là même qu'il fallait beaucoup de courage pour accepter quelqu'un comme vous ?
Oui, c'est pas évident. C'est pas évident non plus, par exemple, de prévoir ne serait-ce que une sortie chez des amis et qu'une heure avant je dise non, je suis incapable de m'y rendre, même si j'avais acheté une robe neuve pour l'occasion, par exemple. Oui, il a vécu ça. Maintenant, je ne suis même pas en état d'aller fêter Noël en famille. Ma vie est vraiment restreinte. Je vis dans une partie de ma maison, même pas dans l'intégralité parce que tout n'est pas accessible. Je suis quand même en fauteuil roulant électrique la plupart du temps, même si je marchouille encore un petit peu, ça reste extrêmement léger et soumis à des quantités de médicaments franchement impressionnantes pour essayer de faire en sorte que mon corps fonctionne quand même à minima. Mais c'est vrai que Laurent a fait fi de tout bois et a pris la chose en cours de route et un soutien de tous les instants. Je pense pas que je serais aussi épanouie et intellectuellement et socialement et etc. et même au niveau de mes délires artistiques, on va dire, si j'avais pas Marie qui était là à m'aider chaque seconde de ma vie, à se réveiller avant que je fasse une fausse route parce qu'il sent que je vais en faire une, par exemple, à m'apporter mes 15 tasses de thé par jour parce que je vais pouvoir m'en servir une mais pas 15 dans la journée. Enfin, on ne mange même pas ensemble puisque je décide pas des moments où on mange. On dort souvent pas ensemble parce que je dors très peu, donc j'ai un sommeil absolument anarchique, donc c'est pas confort pour le conjoint. Enfin bref, il a quand même choisi de m'accompagner et je le remercie pour ça.
Est-ce que vous trouvez que c'est injuste ce qui vous est arrivé ?
Absolument pas. Moi, je me sens normale dans ma normalité. Hein. Je me plais à le dire, dans le sens où personne n'est à l'abri d'une catastrophe personnelle ou à d'autres niveaux. Hein. Par exemple, je pense beaucoup aux Ukrainiens en ce moment. On a tous notre croix. Enfin, on a chacun des choses à porter. Il n'y a pas de justice ou d'injustice là-dedans. Je ne pourrais pas faire tout ce que je fais si j'avais pas mon mari pour m'accompagner, les bénévoles de l'association que j'emmène dans des plans pendables, mais on s'en sort toujours, on arrive toujours à notre objectif quel qu'il soit, parce que j'ai de la volonté et qu'il est hors de question qu'on n'arrive pas à, à trouver, par exemple, la paire de chaussures pour Tom, c'est pas possible. Et voilà, la personne, elle a pas de chaussures, faut lui en trouver. Donc, je pourrais pas faire tout ça si j'avais pas mon mari, beaucoup d'amis, ma famille qui est partie prenante de premier plan. Mon père m'a encore ramené des objets de la région parisienne cette semaine. Enfin, ma maman a toujours des quantités, même des bâtons d'esquimaux, je sais à qui les donner. Les bâtons d'esquimaux, on les donne dans les écoles pour qu'ils fassent du travail manuel. Au lieu qu'ils achètent des bâtons d'esquimaux tout faits, c'est du gaspillage. On peut limiter son empreinte et, au niveau de l'écologie très facilement en ayant juste un peu du jote et les bons chemins pour redistribuer.
Fait de vie. Philippe Berta.
Revenons sur le syndrome d'Ehlers dans l'eau, cette affection génétique. Pendant longtemps, pendant plusieurs années, on a mis cela, pour ce qui vous concerne, mais aussi pour les autres malades qui en sont atteints, sur le compte, si j'ose dire, d'un quelque chose de psychosomatique. Vous vous battez aussi contre cette vision des choses ?
Ah oui, elle est tellement réductrice, c'est tellement à côté de la plaque. Il y a quand même des gens qui ont été jusqu'à être internés, hein, parce que ce qu'ils décrivent en termes de souffrance n'étant pas explicable de prime abord, leur valait d'être mis en catégorie grand dépressif, etc., etc. Alors que non, ça s'expliquait simplement par un manque de collagène, voilà, tout bêtement. Il y a aussi beaucoup de fibromyalgiques qui sortent qui sortent et qui se retrouvent SED ou HSD, donc la sous-catégorie des syndromes d'Ehlers-Danlos, c'est-à-dire qu'on est presque syndrome d'Ehlers-Danlos mais pas tout à fait aux yeux de médical aux yeux médicalement au niveau de la sécu également dans les cases et tout ça ça fait des erreurs de diagnostic qui nous coûtent très cher au demeurant parce que non diagnostiqué on se fait opérer et les opérations par exemple fonctionnent très très mal.
Sur une échelle de 1 à 10, une échelle de douleur, parce que là je vous vois, vous semblez très dynamique, vous l'êtes très dynamique, vous êtes pourtant perclus de douleur et vous ne le dites pas et ça ne se voit pas. Sur une échelle de la douleur de 1 à 10, vous situez votre douleur à quel niveau ?
Voilà, avec toutes les doses de médicaments prises à bon escient juste avant que vous arriviez, je suis à peu près à 8. Voilà. Donc généralement mes journées c'est entre 7 et 8 sur une échelle de 0 à 10. Et si je vais jusqu'à me déplacer aux urgences, faut vraiment que ça soit argumenté, que je m'en rende bien compte que je vais pas me sortir du mauvais pas toute seule. Généralement quand j'arrive et qu'on me demande sur une échelle de 1 à 10, je dis 42 parce que là ça a dépassé l'échelle, ça a explosé le plafond et que je peux plus gérer les douleurs ou le problème engendré par exemple une gastroparésie complète qui fait que je peux même plus avaler mes cachets. Donc du coup, j'ai extrêmement mal. Et là, il faut passer à des perfs, etc., pour me soulager.
Vous parliez de cachets, vous prenez plus d'une trentaine de médicaments par jour ?
Oui, pour me stabiliser à peu près. Et évidemment, tout ça fait des interactions, donc il faut compenser l'oreille pour soulager Hardy. C'est pas toujours évident, mais sans ces cachets, je pourrais pas fonctionner du tout, quoi.
Comment vous envisagez l'avenir, le devenir ? Vous avez été diagnostiqué il y a 6 ans, mais vous vivez avec cette maladie depuis l'âge de 15 ans. Je le disais, vous allez bientôt avoir 50 ans. Comment vous envisagez demain ?
Aussi bien qu'aujourd'hui, continuer à semer des petites graines un peu partout pour expliquer qu'on peut être malade, gravement handicapé, parce que j'ai quand même une atteinte très sévère du syndrome d'Ehlers-Danlos. Et pour autant, on peut aider son prochain, on peut faire plaisir à quelqu'un, on peut mettre des sourires et tout simplement continuer à faire tout ça de mon petit salon, de mon fauteuil roulant électrique enfermé dans mon salon. Moi, ça me va très bien. Je suis tout à fait d'accord pour que ma vie continue comme ça.
Comment on peut vous aider ?
Alors, il y a plusieurs façons de m'aider, enfin de nous aider, parce que je considère que l'association, c'est déjà, c'est une association participative. Tout le monde a son mot à dire. Il n'y a pas de chef, de, enfin, il y a évidemment un chef, un bureau, etc. Mais c'est purement formel. Toutes les idées sont bonnes à prendre pour faire connaître et reconnaître le syndrome d'Ehlers dans l'os. On peut m'aider évidemment en donnant des sous, parce que ça va nous aider à acheter par exemple des rubans pour décorer le sac à main de grand-mère dans lequel on met une plante dedans. Des sous pour le fonctionnement bête de l'association, en classique, on va dire, en nous donnant des objets en bon état, parce qu'on va les redistribuer et aider plein de gens comme ça, et aider aussi nos malades en revendant, en nous achetant aussi des créations originales, pensées dans ma petite tête, une jardinière faite avec une huche à pain, par exemple. Et en nous donnant du temps, hein, parce qu'on a toujours besoin de bénévoles. Là, par exemple, j'ai un grand besoin d'une super secrétaire, donc je lance un appel, j'en profite, parce que étant donné que je peux ni lire ni écrire, c'est pas facile de chercher les subventions, etc., faire toutes les démarches administratives, ne serait-ce que tenir le listing des adhérents à jour. J'ai du mal j'arrive pas à écrire un numéro de téléphone, donc une secrétaire serait la bienvenue, donc on peut m'aider en me donnant du temps.
L'appel est lancé. Je terminerai par cela. Vous avez intitulé votre association SED, c'est-à-dire syndrome d'Ehlers dans l'os, la vie. Et vous m'avez indiqué avant notre entretien que pourquoi la vie ? Parce qu'on n'en a qu'une seule vie et qu'il faut en profiter autant qu'elle soit belle. C'est ça votre philosophie ?
Absolument. On n'a qu'une vie, malade ou pas, ou bien portant. On n'en a qu'une. Il faut en profiter le maximum qu'on peut. Chercher des plaisirs simples. Moi, je fais avec ce qui est, pas avec ce que je voudrais qu'il soit. Donc, ça permet d'avoir une vie, l'air de rien, fort agréable. Même si mon corps m'appartient pas, j'arrive à avoir une vie quand même, franchement, que je trouve sympa. Donc, c'est de la vie. Parce que c'est la vie et qu'on n'en a qu'une, et que on peut être actif, on peut être productif, on peut être socialement intégré, même en étant franchement malade.
Merci Caroline.
Merci Philippe de m'avoir écouté, c'est gentil.
Podcast by Tendance Ouest.